Bonjour à nos auditeurs et auditrices. Mon nom est Nathalie Bouchard. Je suis juriste responsable des projets de l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario, ou la GFO tout court, et je vais m'occuper de la modération de cette entrevue. La GFO est une organisation à but non lucratif qui a comme objectif d'assurer l'accès à la justice en français en Ontario. Ce balado est réalisé dans le cadre du programme pour la prévention de la violence basée sur le genre. La GFO aimerait remercier l'Office de la condition féminine pour leur appui financier dans ce projet.
Nous avons avec nous aujourd'hui Maître Julie Taou, avocate à la Société d'aide à l'enfance d'Ottawa. Aujourd'hui, nous allons discuter du rôle des sociétés d'aide à l'enfance, ou SAE pour tout court, dans les dossiers où il existe la violence conjugale. Notre objectif est de démystifier le rôle des SAE lorsqu'il y a de la violence entre les deux parents ou les deux conjoints. Merci beaucoup, Julie, d'être avec nous aujourd'hui.
Ça me fait plaisir. Merci de m'accueillir.
Alors Julie, je vais commencer par vous demander quels sont les impacts sur les enfants qui sont dans une situation de violence conjugale et pourquoi la Société d'aide à l'enfance interviendrait dans de telles situations.
D'abord, pour répondre à la question, je commencerai peut-être par voie d'introduction pour parler du mandat général des sociétés de l'aide à l'enfance. Les sociétés de l'aide à l'enfance existent pour protéger les enfants contre la maltraitance et la négligence dans leur milieu de vie. Et donc, c'est une loi sur la protection des enfants qui donne un mandat à les sociétés de faire des interventions dans les familles pour assurer que les enfants soient en sécurité. Donc, on parle de situations de maltraitance et de négligence. Souvent, les gens ont l'idée que la maltraitance, c'est quand les parents sont violents, méchants et cruels avec une intention malicieuse. Des actes de commission contre les enfants ou quelque chose de prémédité. Tels les abus physiques ou sexuels. Mais nous, ce qu'on voit dans notre travail, c'est plus souvent, c'est des parents qui vivent des choses difficiles dans leur vie et que leurs problèmes ont un impact sur les enfants. Que l'impact sur les enfants, c'est que ça devient un mauvais traitement parce qu'ils sont plus en sécurité. Et donc, on peut penser à des exemples d'abus de substances, des problèmes de santé mentale non traités et évidemment, notre sujet d'aujourd'hui, la violence conjugale. Maintenant, dans notre société, on voit l'exposition à la violence conjugale comme une forme de mauvais traitement. On sait que ce n'est pas bon pour les enfants. Donc, c'est pour ça qu'une société de l'aide à l'enfance va intervenir. Il y en a, quand on dit ça, qui disent que c'est sûr, évidemment, c'est un mauvais traitement, une société doit intervenir, mais il y en a peut-être pour d'autres, c'est moins évident. Parce qu'on ne voit pas que l'enfant est nécessairement visé comme étant la victime. Sauf que c'est vraiment l'exposition de vivre dans une maison, dans un milieu de vie où il y a cette violence qui existe. Et donc, pour répondre à la question, quels sont les impacts? Il faut d'abord dire que ce n'est pas tous les enfants qui vont être affectés de la même manière par la violence conjugale dans leur maison, mais il y a de nombreuses recherches maintenant qui ont démontré qu'il y a des risques. Des vraies séquelles pour les enfants qui sont exposés à la violence conjugale. Et même les tribunaux, dans les dossiers de protection de l'enfance, ont reconnu ce risque, ces impacts-là pour les enfants. Donc, quels sont-ils? Je vous dirais qu'il y en a 6 principaux qui sont au niveau psychologique, des choses qui minent vraiment le sain développement d'un enfant. Premièrement, ça serait que l'enfant ne fait plus confiance à l'adulte. Donc, ils ont des attachements précaires. Normalement, un enfant doit avoir la confiance que son parent va assurer sa sécurité. Et donc, ça, ce n'est pas possible quand il y a de la violence conjugale. Deuxièmement, au niveau psychologique, là, c'est que les enfants vont développer des comportements agressifs et antisociaux eux-mêmes. Ça, il y a 2 raisons pour ça. Un, c'est parce qu'ils voient de la violence ou tout simplement, c'est une réaction traumatique. Les gens, lorsqu'ils vivent un trauma, peuvent ensuite devenir agressifs eux-mêmes. Donc ça, c'est un impact psychologique pour les enfants, leur comportement qui deviennent agressifs pour eux. Troisièmement, ce qui est documenté dans la recherche, c'est que parce qu'ils sont exposés à cette violence, les enfants ont de la difficulté à se concentrer à l'école, ont des retards et des difficultés sur le plan académique. Donc, proportionnellement aux autres enfants, là, c'est documenté que les enfants qui vivent dans des milieux de violence conjugale ont ces difficultés-là à l'école. Quatrièmement, on sait que les enfants qui vivent dans des milieux de violence conjugale ont plus tendance à une propension à la délinquance eux-mêmes. Donc, d'essayer des choses qui sont des comportements, même voire criminels ou contre la loi. Cinquièmement, ils ont plus de conflits eux-mêmes, des conflits interpersonnels avec leur père, avec les amis. C'est plus difficile. Et sixièmement, et tragiquement, c'est des enfants qui ont plus souvent des idées suicidaires ou font des tentatives de suicide. Donc ça, comme je disais, c'est la recherche qui a découvert ça au fil des années. C'est la jurisprudence en protection de l'enfance qui a reconnu comment un enfant peut être affecté par l'exposition. Il y a aussi au niveau physique, en termes de sa santé physique, on sait qu'un enfant peut avoir des risques de blessures s'ils sont mêlés, accidentellement sûrement, mais mêlés à une chicane dans la famille, une violence dans la famille. Ils sont à risque d'homicide plus élevé. Le fameux drame familial, lorsque le conjoint abuseur décide de tuer les enfants pour priver l'autre des enfants, ou un abuseur qui tue tous les membres de la famille et se tue même lui-même. Les enfants, au niveau physique aussi, ont beaucoup de problèmes de santé, plus que les autres enfants, parce que ça, c'est lié au stress. On sait que le stress nous cause souvent des problèmes de santé, mais ces enfants-là, ils vivent souvent dans la peur et le stress chronique, et donc leur santé est affectée. S'il y en a qui sont intéressés à lire de la jurisprudence, il y a une cause qui résume bien ces choses-là, c'est la cause Catholic Children's Aid Society of Toronto contre IB, les initiales IB. C'est une décision de 2020 de la Cour supérieure de l'Ontario, numéro 5498. Et ça résume bien que les tribunaux acceptent maintenant les recherches et voit qu'il y a une obligation pour les sociétés de l'aide à l'enfance et les tribunaux en protection de l'enfance de protéger les enfants comme ça. Donc, en somme, le but, c'est de protéger contre ces risques-là.
Merci beaucoup. J'ai trouvé ça intéressant que vous avez mentionné les 9 impacts sur les enfants. Il y a des impacts qui vont très, très loin, en particulier, comme que vous avez mentionné, le fait que les enfants qui sont exposés à la violence à la maison ont des troubles académiques, qui peuvent même avoir des difficultés dans le futur très, très loin. C'est important de comprendre que les impacts à la maison peuvent vraiment avoir des conséquences réelles et graves pour le futur, puis c'est pas simplement pour le présent non plus.
Ouais. Et des fois, on sous-estime aussi à quel point les enfants comprennent ce qui se passe. Des fois, les gens disent, ben ça s'est jamais passé dans la même pièce, ils n'étaient pas dans la même pièce. Mais les enfants... Bien, ils entendent des choses, mais ils ressentent les sentiments de leurs parents. Ils sont plus vigilants, je pense qu'on le pense, puis la recherche le démontre, puisqu'ils peuvent avoir développé des séquelles sans même avoir été témoins directs. Juste le fait que ça se passe dans leur milieu de vie, ça peut causer des séquelles, on le sait maintenant.
Merci beaucoup. Alors, on va passer à la deuxième question. Je vais vous demander de nous expliquer un peu ce sont quoi les obligations du grand public à rapporter à la Société d'aide à l'enfance des enfants exposés à la violence conjugale.
Il y a en fait une obligation légale, ça découle de la loi, particulièrement de l'article 125 de la loi sur les services à l'enfance, à la jeunesse et à la famille. Et ça dit qu'en Ontario, toute personne a l'obligation de signaler à la Société de l'aide à l'enfance un enfant qui est à risque de mauvais traitement. Et c'est une obligation qui est accrue, sous peine même de peine, d'amende, pour des personnes qui exercent des fonctions professionnelles envers les enfants, par exemple les enseignants. Mais ce n'est pas seulement les enseignants, ceux qui travaillent avec les enfants, c'est tout le monde. Et c'est l'idée que nous sommes une communauté et la communauté est responsable pour ses enfants, puis on doit ensemble les protéger. Et ce que la loi nous dit, c'est qu'il faut seulement avoir un soupçon. Hein? Parce que souvent, les gens disent « mais je ne suis pas certain, je n'ai pas nécessairement la preuve, je ne veux pas faussement accuser quelqu'un ». Et ça peut être une hésitation, mais la loi protège toute personne qui fait un signalement, leur dit « en fait, c'est votre obligation, et juste de dire que vous avez un soupçon, pourquoi vous avez un soupçon ». Et là, c'est le rôle de la Société de l'aide à l'enfance de faire une enquête. Parfois, l'enquête va déterminer que le soupçon n'est pas fondé, que c'est correct, que tout va bien. Mais parfois, ce que l'enquête va démontrer, c'est que les enfants sont à risque et que là, on va vouloir faire des interventions pour les protéger. Parfois, les gens s'inquiètent de faire un signalement parce qu'ils ne veulent pas révéler leur identité. Et c'est possible de garder son identité confidentielle. Et particulièrement, dans le cadre de notre sujet d'aujourd'hui de violence conjugale, il y a des hésitations à faire des signalements parce que souvent, les gens ont la crainte de dire « j'ai peur que la société de l'aide à l'enfance vienne enlever les enfants ». Surtout à la maman. C'est souvent les mamans qui sont les victimes de violences conjugales. Et on le dit, c'est comme la revictimiser. Elle est non seulement la victime de son conjoint, mais là, la société, parce qu'on pense que c'est comme ça que ça se passe, que la société va intervenir, puis que l'intervention, c'est que les enfants sont retirés. Donc là, la maman se retrouve revictimisée. Mais ce n'est pas du tout, hein? C'est vraiment un mythe que le rôle de la société de l'aide à l'enfance, c'est de retirer les enfants. Je sais qu'on va en parler un peu plus, puis je suis contente d'en parler parce que c'est dans moins de 10 % des dossiers que les enfants doivent être retirés. Puis c'est vraiment parce qu'une panoplie d'interventions ont été tentées sans succès. Donc, j'espère que les gens vont avoir un peu moins cette hésitation-là lorsqu'ils vont comprendre quel genre d'intervention on fait avec le parent victime autant que possible.
Merci beaucoup. C'est certain qu'on peut comprendre l'hésitation des gens à reporter des cas comme ça aux sociétés d'aide à l'enfance. Je peux juste imaginer si on est voisin avec ces gens-là, puis qu'on entend les choses à travers les murs, des choses comme ça. On veut certainement pas causer du trouble non plus. Alors, je comprends complètement ça, mais aussi, il faut assurer les gens du public et leur dire qu'on peut assurer leur anonymat. Puis également qu'il n'y aura pas de conséquences justement pour la maman qui est probablement victime de violence si jamais qu'on décide de faire un rapport. En fait, l'objectif du balado aujourd'hui, c'est justement de démystifier le rôle des sociétés d'aide à l'enfance. Alors, j'espère qu'on pourra faire ça pour le grand public aujourd'hui.
Alors, je vais passer à notre prochaine question. Julie, maintenant, j'aimerais vous parler un peu des différents types d'interventions que la société d'aide à l'enfance pourrait possiblement entreprendre dans des cas de violence conjugale. Comme vous avez mentionné, il y a plusieurs interventions qui peuvent être prises avant de se rendre au retrait. Si vous pouvez en discuter un peu de ça, ce serait très apprécié.
Oui. Effectivement, le retrait, c'est vraiment ce qu'il y a de plus intrusif, puis c'est un dernier ressort. Comme je disais, c'est l'exception. La loi dit que ça doit être l'exception, puis qu'il faut toujours faire ce qu'il y a de moins perturbateur, de moins intrusif possible pour chaque cas. Alors, le rôle de la société, c'est essentiellement de développer des plans de sécurité. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on n'est pas là pour juger. On n'est pas là pour blâmer. On est là pour, premièrement, faire connaître les risques pour les enfants. Vous savez, c'est un peu un rôle d'éducation. Des fois, les gens ne sont pas toujours conscients que leurs problèmes, peut-être, ont un impact sur les enfants. Donc, c'est de présenter les risques pour les enfants, puis d'inviter les parents à développer un plan de sécurité. Ça veut dire peut-être comment on fait pour mitiger les risques en ayant un réseau de personnes qui peuvent nous aider ou des services communautaires qui peuvent nous aider. La loi sur les services à l'enfance, à la jeunesse et la famille nous en dit beaucoup sur le comment les sociétés d'aide à l'enfance doivent développer ces plans de sécurité-là. Ça nous dit d'abord et avant tout qu'on doit essayer de développer des plans de sécurité qui respectent l'autonomie des familles autant que possible. Ça veut dire que ce n'est pas la société de l'aide à l'enfance qui doit dire aux gens ce qui est bon pour eux, nécessairement, mais inviter les gens à collaborer pour se créer des plans qui fonctionnent pour eux. Ça doit se faire idéalement avec le consentement mutuel. Donc, pas des choses qu'on impose aux gens, mais on les invite à planifier pour leur sécurité personnelle puis celle de leurs enfants. On doit le faire avec des partenaires communautaires aussi qui doivent nous aider pour soutenir. Parce que l'idée, c'est vraiment de soutenir, d'offrir de l'aide et de respecter l'autonomie des gens. Fait que c'est pas toujours, j'en conviens, l'impression que les gens ont des sociétés de l'aide à l'enfance. On imagine la société qui arrive dans notre vie et qui impose des choses. Mais je suis là pour dire que la loi dit le contraire, qu'on doit essayer de donner un certain pouvoir. Puis c'est ça, l'intervention première dans les dossiers de violence conjugale qu'on voudrait faire. Parce qu'on sait qu'un parent victime de violence conjugale, c'est quelqu'un qui a très peu de pouvoir dans sa vie. Il est contrôlé, certainement l'autre conjoint ou la ex-conjoint essaie de les contrôler, exerce une emprise sur leur vie. Et là, on ne veut pas que l'intervention d'une société de l'aide à l'enfance enlève une autre partie d'autonomie à cette personne-là dans son rôle parental. Donc, on veut essayer de vraiment inclure la personne, que ça soit participatif. Puis, on va essayer d'inviter le parent victime à, un, comme je disais, reconnaître les risques. Il y en a pour qui ils ne sont tout simplement pas sensibilisés à ça. Et ensuite, les aider à développer un plan de sécurité qui peut impliquer aller dans un refuge. Les sociétés de l'aide à l'enfance font des partenariats avec des refuges pour victimes. Et d'autres services communautaires en violence conjugale. Ça peut inclure, par exemple, des thérapies pour la victime et même pour les enfants. Ça va souvent, le plan de sécurité, impliquer une dimension policière. Mais encore une fois, on veut essayer de faire ça avec la victime, l'accompagner là-dedans, mais déposer des plaintes et suivre le cours des procédures criminelles, essayer d'obtenir des ordonnances de non-contact. On veut vraiment assurer avant tout, là, dans la planification, la sécurité physique du parent victime et des enfants. Parce que si le parent victime et les enfants sont en sécurité, essentiellement, le travail de la société de l'aide à l'enfance peut être accompli. On va essayer d'amener le parent victime et les enfants dans un lieu sûr et d'assurer qu'il n'y a pas de menace à leur sécurité par l'agresseur, donc des ordonnances de non-contact et des choses comme ça. On sait évidemment que le risque de violence est vraiment plus grand au moment d'une rupture. Donc, on va faire très attention dans la planification de sécurité à ce moment-là. Mais on sait aussi que la violence conjugale peut se transformer en violence post-séparation. Puis ça peut durer longtemps. Fait qu'on essaie de travailler avec des partenaires communautaires pour aider à développer des stratégies qui vont garder les enfants en sécurité dans le long terme aussi. L'idée, c'est toujours de travailler à ce que les enfants puissent rester au moins avec le parent victime. C'est souvent la stratégie en violence conjugale. Souvent, les gens posent la question, mais dans quel cas la société va retirer les enfants parce qu'il y a eu de la violence conjugale? Comme je disais, c'est pas parce qu'il y a eu de la violence conjugale qu'il va avoir un retrait. C'est parce que peut-être le parent victime ne veut pas ou ne peut pas, pour quelques raisons, vraiment participer dans la planification de la sécurité comme on souhaiterait. Un parent, par exemple, qui ne peut pas, malgré tout le soutien, se soutirer d'une relation abusive, puis on sait que c'est un cycle, on comprend ça, mais par exemple, quelqu'un qui exposerait les enfants à l'agresseur, contraire à des plans de sécurité, contraire à des ordonnances, ça arrive à un certain point où le refus de quitter une relation abusive ou le non-respect d'un plan de sécurité, ça devient comme une menace aux enfants. C'est ce que la jurisprudence nous dit, et c'est dans ces moments-là que la société de l'aide à l'enfance ou le tribunal de protection de l'enfance vont prendre des décisions pour protéger les enfants. Mais ça va être parce que ce parent-là soit refuse de le faire ou est incapable. Des fois, les gens vivent des choses et sont juste tout simplement pas capables, malgré le soutien, parce qu'on veut offrir le soutien, comprenant la dynamique, et que là, il va peut-être avoir des interventions qui doivent être plus intrusives. Mais ce n'est pas la démarche d'intervention de premier ordre, certainement pas.
Merci beaucoup pour ces précisions. Quelle belle discussion intéressante du point de vue de la Société d'aide à l'enfance. J'aimerais remercier Maître Daou d'avoir pris le temps de se joindre à nous aujourd'hui et de nous clarifier c'est quoi le rôle des sociétés d'aide à l'enfance dans les dossiers de violence conjugale.
On vous encourage à écouter les autres balados disponibles sur la page web de la GFO qui est dédiée à ce programme et à très bientôt.